Nous avons, avec Pierre, nous avons pensé qu'il était préférable que on essaie de terminer cette table ronde entre 17h30 et 17h45, et puis qu'après, on ne fasse pas vraiment de synthèse, qu'on vous laisse sur ces échanges, tout simplement parce que certains d'entre vous ont des trains à prendre, mais que surtout, pour des raisons plus profondes, la synthèse nous semble extrêmement difficile à faire et qu'il est mieux que vous vous reportiez à l'ouvrage et éventuellement aux notes que vous avez prises à l'occasion de... Elle arrive, Aude. À l'occasion de ces tables rondes. Donc, cette dernière table ronde consacrée aux politiques publiques, avec une question, et ça, j'y reviendrai. Cette question, ce n'est pas moi qui la pose, parce que je ne l'aurais pas posée comme ça, mais je trouve ça très intéressant de la poser de cette façon-là. Les politiques publiques au service de l'industrialisation éducative. Évidemment, c'est une question, hein, ce n'est pas une affirmation, et nous y reviendrons. Donc, je vais passer d'abord la parole à Éric Auziol, qui est un des collègues du CIF, qui va mettre en lumière un certain nombre d'aspects de la question autour des politiques publiques. Et puis ensuite, nous interagirons avec nos collègues que nous présenterons au fil de la discussion.
Merci Françoise pour ce début. Donc, la question des politiques publiques, qui est bien sûr un thème central pour toi, y compris à la fois dans tes recherches, mais aussi dans tes activités professionnelles. Pour l'introduire rapidement et en évitant peut-être même de poser des questions, je vais essayer de repérer quelques thèmes qui ont un rapport avec cette question. Je vais le faire, compte tenu de tout ce que tu viens de dire, assez rapidement. Quand je me suis intéressé à la question, j'ai pris bien sûr le livre L'Anthologie et, comme il me semble naturel, je suis allé regarder du côté de l'index thématique. C'est un texte thématique, dit index notionnel dans le livre, comporte une cinquantaine d'entrées sur la notion de politique publique, ce qui est pas mal pour un thème transversal. C'est certainement, je crois que c'est la deuxième en importance des entrées de cet index. Ce qui est remarquable, c'est que quand j'ai regardé de plus près, il y avait une belle régularité, même une régularité absolument remarquable, dans les références de l'index. C'est-à-dire qu'on trouvait à peu près une référence tous les 7-8 pages. Vous regarderez vous-même. Donc je me suis interrogé là-dessus et c'est à partir de là que je voudrais juste dire quelques mots. Hypothèse, c'est fait exprès, ou à la limite même, c'est tout chercheur devant des données statistiques se pose toujours la question, surtout devant des régularités de ce type-là, n'y a-t-il pas un biais? N'a-t-on pas effectivement choisi d'en mettre un petit peu comme ceci? Le thème étant assez général, on pourrait le retrouver un petit peu partout. Est-ce que cette deuxième référence, j'irai même un petit peu plus loin. Dans la deuxième table ronde, vous l'avez vu, on a abordé cette question assez souvent. Et donc, elles sont fortement corrélées. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation très forte entre la notion d'industrialisation et la notion de politique en général? Ce sont des termes, semble-t-il, qui appartiennent, je dirais, qui ont du cousinage, qui appartiennent à la même famille. L'industrialisation et les politiques publiques relèvent d'une démarche volontariste, d'une démarche descendante, c'est bien évident. Et ce sont des notions, bien sûr, différentes, mais encore une fois, assez voisines. Donc, quand nous allons parler de politique publique ou de politique industrielle, nous allons retrouver effectivement des notions qui se rencontrent en général dans les chaque fois qu'on parle de projets et d'une manière, comme je disais, assez volontariste. Alors, à partir de là, j'ai essayé de retrouver un certain nombre de thèmes et nos intervenants que nous allons présenter tout de suite après et puis les membres du public qui souhaitent ensuite intervenir dans la discussion peuvent reprendre ces thèmes que je propose ou ne pas les reprendre. C'est des possibilités qui viennent simplement d'une réflexion que j'ai menée rapidement. Je me suis dit, la première des choses, c'est que souvent une politique, ça se résume dans des slogans, surtout quand il s'agit de politique publique. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que le slogan résume toute la politique. Au contraire, il en est parfois un petit peu la caricature, mais je pense qu'il y a des choses à lire. Or, quels sont les slogans que l'on retrouve dans les 30 dernières années dans le domaine, en se cantonnant à la France, c'est par exemple, et pour aller vite, je ne vais pas citer les références, mais vous les reconnaîtrez facilement, l'élève au centre, le collège unique, la différenciation pédagogique, dégraisser le mammouth, et puis le dernier, un des plus curieux, qui a été prononcé par notre ministre actuel de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, l'évaluation bienveillante. Et j'avoue que moi, je me suis arrêté sur cette expression parce que tout de suite, ça m'a étonné dans la mesure où on sent spontanément, rien que dans l'énoncé, la contradiction que comportent les deux termes. Mais en même temps, ça m'a amené à penser que les politiques publiques renvoyaient aussi à ce qui est l'air du temps. Vous savez, la société du Caire, nous sommes bien. Et puis, la difficulté à admettre les contradictions de l'évaluation. J'en profite pour me présenter un peu au passage en tant que maître de conférence qui joue les prolongations actuellement en sciences de la communication. Je me suis beaucoup intéressé durant toute ma carrière à l'évaluation. Et c'est vrai que je n'avais jamais rencontré encore ce terme. Alors que si vous prenez le dictionnaire de Gilbert de Lanchère qui fait référence sur l'évaluation, vous trouvez au moins 40 à 50 entrées différentes qui associent évaluation à un adjectif qui le qualifie. Mais l'évaluation bienveillante, on ne connaissait pas encore. Je ne suis pas vraiment critique. Je dis, on sent qu'il y a une volonté d'une politique publique qui d'ailleurs tourne court assez vite parce que y a d'autres questions qui s'imposent dans le débat public avec le contexte politique. Donc première idée, quand on prend les slogans, on sent bien que... je voulais encore dire quelque chose là-dessus, mais j'avais dit que j'étais bref, je ne vais pas aller très loin, mais si je me suis dit, et je renvoie à l'assistance en général pour dire, mais est-ce qu'il y aurait un slogan qui renverrait à quelque chose qui serait connoté à l'industrialisation? Et je n'ai pas trouvé, à part informatique pour tous. Mais quand j'ai pensé à informatique pour tous, j'ai pensé à la politique en général, et même au contexte très récent... la manif pour tous, le mariage pour tous. Et ce qui m'a semblé relativement important, c'était le mot pour tous. Hein, beaucoup plus que effectivement ce à quoi il renvoyait en tant que tel. Et donc on voit bien que sur les politiques publiques, le contexte, et en particulier le contexte électoral en période électorale, vient surdéterminer tout le discours lui-même en tant que tel. Bon, on reviendra peut-être sur cette question. C'est le thème que je vous propose, discours et pratique en la matière. Quelle différence, quelle convergence, quelle divergence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Deuxième domaine, et je vais rapidement, bien sûr, que fait l'État ? Que fait l'État, les pouvoirs publics en la matière ? Est-ce que, et très simplement, est-ce que c'est un vecteur majeur de l'industrialisation ? Et comment ? Quelle forme ? Quelle cible ? Ou serait-ce plutôt, au contraire, à l'inverse complet, un rempart contre les formes les plus agressives ou imaginées en tant que telles de l'industrialisation ? Et je pense en particulier à tous les courants, les militants pédagogiques qui espèrent encore entre l'État, dans l'État pour protéger contre effectivement une crise trop forte de l'appareil éducatif en cette matière. Bon, voilà, il y a plein de questions connexes. Moi qui ai travaillé il y a fort longtemps dans un organisme qui s'appelait l'ADEP, l'Agence pour le développement d'éducation permanente, je me dis que ces structures-là ont quand même disparu depuis longtemps aujourd'hui et que des structures qui soient à mi-chemin entre l'action pratique et qui fassent de la recherche-action, en quelque sorte, on en aurait bien besoin aujourd'hui et elles sont... elles sont en difficulté ou elles ont disparu, inexistantes, etc. Il y a vraiment un problème là en tant que... Dernière question, il y en aurait deux autres, mais je vais les associer. La notion de réforme et les réformes éducatives, de quel ordre sont-elles ? Alors qu'elles sont extrêmement fréquentes. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministère, il y a une réforme à la clé, en particulier en France. Je pense que c'est moins fort dans les autres pays, enfin, de connaissances que j'en ai. Et la question que je vois aussi centrale, c'est, elle a été évoquée plusieurs fois cet après-midi, c'est aussi ma spécialité, c'est pour ça que j'y mettrai particulièrement l'accent, c'est la question de l'évaluation. Une politique publique qui ne serait pas évaluée serait-elle une véritable politique publique ? Or, ces évaluations sont moins faibles. Hein. C'est mon hypothèse, je la renvoie comme sujet éventuel de débat. Voilà, j'ai essayé d'être assez bref et je crois que nous passons à la présentation. Je rends le micro à Françoise pour la présentation des intervenants.
Alors, je vais passer d'abord la parole à Jean-François Tétu. Jean-François Tétu, plusieurs d'entre nous, je pense que presque nous tous, nous connaissons bien Jean-François. Il est aujourd'hui professeur honoraire à Sciences Po. C'est des professeurs en sciences de l'information et de la communication. C'est très difficile de dire ce qu'il caractérise parce que beaucoup de choses le caractérisent et notamment l'écoute qui est une chose non partagée, peut-être aussi commune que ça aujourd'hui, mais surtout Jean-François a eu à la fois une politique de chercheur. Il a beaucoup écrit et beaucoup travaillé sur la question des médias. Son livre très connu qui fait référence, c'est le journal quotidien. Et je sais qu'il écrit encore aujourd'hui, puisqu'il m'a dit qu'il avait en cours un ouvrage sur le récit et le temps. Et je disais, donc, Jean-François était chercheur, mais aussi impliqué, acteur impliqué, comme toi, comme moi, tu le disais tout à l'heure, comme je pense beaucoup d'entre nous autour de cette table. Acteur impliqué, il a été, il a participé à l'élaboration de la loi Savary de 1984. Il a contribué, et ça, pour y avoir travaillé, je sais que c'est un moment très clé dans l'évolution de l'université française, il a contribué à toute la réflexion autour de la contractualisation des universités à la fin des années 90. Il a été membre du comité national d'évaluation, président du CNU, et j'arrête là parce que on voit bien par ces différentes missions ce que peut être l'acteur impliqué. Et en recherche, tu as créé le laboratoire Hélico, qui est un laboratoire qui avait pour particularité d'associer des équipes d'établissements différents. Ça, c'est important, je pense, y compris dans ton projet intellectuel, cette idée que tu as de toujours, finalement, dépasser les institutions pour créer des lieux de réflexion qui sont comme ce qu'on a voulu faire, comme ce que Pierre et nous tous avons voulu faire au CIF, c'est-à-dire être vraiment dans des problématiques larges qui ne sont pas attachées à des petits périmètres bien définis.
Je voudrais d'abord rendre un hommage appuyé au concepteur de cette salle, qui illustre d'une façon prodigieuse ce que c'est qu'une pédagogie ascendante. Dans la mesure où il nous est à peu près totalement impossible de voir nos notes, mais où en revanche, nous vous voyons parfaitement. Alors, après cela, je voudrais dire, mais Françoise l'a dit très bien, que je suis beaucoup moins spécialiste que vous de ces questions-là. Par exemple, certes, j'ai été un acteur d'un certain nombre de choses, mais par exemple, quand je me suis retrouvé à la direction de la recherche pour les questions d'équipe de recherche ou de DEA, je ne faisais que poursuivre le travail préalablement fait par Miège au sein du ministère de la Recherche, et ainsi de suite. Et puis, en matière de politique publique, Françoise en sait plus long que moi. Il reste que j'ai deux spécialités. La première, c'est d'être un analyste de discours. Et là-dessus, je vais suivre Pierre, parce qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne parle pas de la réalité de l'industrialisation. Il parle des textes qui en parlent et qui la fondent. Et donc, moi, je m'appuierai sur des textes qui sont souvent des textes politiques, mais qui ne sont pas les textes de loi, qui sont plutôt des textes qui préparent les lois. Et où peuvent se lire les intentions de ces gens-là. Bon. Puis d'autre part, là je m'inspire encore de ce qui a été dit aujourd'hui et d'un point sur lequel Pierre insiste, c'est la sédimentation. Parce que les politiques publiques sont des championnes de sédimentation. Il suffit de regarder le moindre texte de loi pour le savoir, c'est vu la loi du temps, vu la loi du temps, etc. Et on commence par dire sur quel sédiment on s'appuie. Alors, cela dit, pour aborder mon propos... qui est le thème de cette table ronde, je voudrais partir d'abord de Jean-Louis de Rouet, parce que j'aime bien l'opposition de ces logiques. Et je voudrais dire d'abord que la logique majeure des politiques publiques a été une logique civique. Ce n'est que très récemment, je reviendrai sur le plan informatique pour tous, et surtout de façon générale sur l'agenda de Lisbonne, mais on peut dire que la logique civique a été... l'élément majeur est sans doute exclusif des politiques publiques jusqu'il y a très peu de temps. Alors, quelques repères. Le premier, c'est le point de départ, c'est Condorcet. Alors, comme on a peu de temps, je vais en lire moins de ces textes que je n'avais prévus, mais passage fondamental de Condorcet dans son rapport à l'Assemblée. Établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but d'une instruction nationale. Ça, c'est le socle. Et toutes les politiques publiques suivantes n'ont fait que les reprendre, alors plus ou moins explicitement, mais par exemple, Jules Ferry s'appuie expressément sur Condorcet pour ses différentes lois. Bon, donc le socle, c'est ça. Ensuite, bien sûr, il y a des normalisations. Et le 19e y est très largement consacré, mais cette normalisation n'est pas industrielle. Je citerai simplement la formation des maîtres par la loi Guizot en 1933, les écoles normales seulement en 1979, mais juste avant les lois Ferry, mais aussi une normalisation de l'administration. Par exemple, bon, on connaît tous les lois Fallou, mais on les assimile essentiellement à l'école libre. Et en fait, ce n'est pas seulement ça. Hein. C'est d'abord la normalisation des programmes, dont les travaux d'aiguille pour les filles, il n'y a pas l'équivalent pour les garçons. C'est aussi la création des rectorats, alors que les académies existent depuis 1808, mais c'est le Fallou qui impose les rectorats, et donc cette normalisation. La loi du Ruy aussi, en 1867, avec l'ouverture des écoles pour les filles, etc., je passe. Bon, deuxième étape, Jules Ferry. Alors, là aussi, on connaît tous Jules Ferry, mais on n'a pas lu la loi, et on n'a pas lu ses textes, parce que Jules Ferry, ce n'est pas l'obligation de la scolarité. Le texte de la loi Ferry reconnaît parfaitement qu'on peut ne pas aller à l'école. Les parents peuvent s'en occuper. On peut aussi choisir les congrégations, quoi qu'on vienne de leur faire un mauvais sort très peu de temps avant. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et ça, c'est complètement fondamental parce que c'est un élément décisif de cette succession qui commence à Condorcet. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'idéologisation, enfin, un des points que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que les marqueurs, on ne peut pas les dissocier. Parce que de l'idéologisation, il y en a partout. Et alors, du côté de la logique civique, il y en a à flot. Et du côté de la logique domestique, il y en a plein. Qu'est-ce que ce serait sinon que pourquoi mettre libres enfants de ce moril ? Qu'est-ce que c'est que ces écoles nouvelles ? Etc., sinon de l'idéologisation à plein nez. Bon, alors, Jules Ferry, je cite, non pas la loi, mais un discours au Conseil général des Vosges, en 79, deux ans avant la loi. Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles ne se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes totalement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 24 mai 71. Bon, on savait que Ferry n'était pas un communard, mais ça c'est quand même assez clair. Il s'agit bien de faire une école idéologiquement, cette école est républicaine. Bon. Alors, mais ce que je remarque aussi, c'est que, bon, il y a deux lois, hein, l'obligation et puis ensuite la gratuité, mais ce qui est important, c'est de voir à quel point, et c'est pour ça que je vous cite ce texte, à quel point cette loi est inspirée par un contexte. Ce contexte, c'est évidemment la défaite de 70. Et on attribue aux Allemands la victoire du fait d'une meilleure instruction. Donc il s'agit de rétablir ça. Ensuite, c'est le républicanisme. Ensuite, la laïcité. Et via l'alphabétisation et la formation, l'objectif, c'est l'émancipation du peuple souverain. C'est ça le point fondamental. Alors, je passe. Bon, le 19e était celui de l'école primaire. Le 20e siècle va être celui de l'enseignement secondaire. Et le successeur, je vais vite, hein, le successeur direct de cela, c'est Abi. On prononçait tout à l'heure le terme de collège unique. C'est faux. Il n'y a pas de collège unique dans la loi Abi. Il y a un collège pour tous. Encore. Hein, c'est comme l'informatique. Et il y a une sacrée différence. C'est que ce sont ses adversaires qui parlent du collège unique. Ce n'est pas lui. Et ce terme, le but de Abi, c'est la généralisation de l'enseignement avec la gratuité du collège. Là encore, héritage direct de Jules Ferry. L'âge légal qu'on lui attribue généralement est faux. L'obligation de la scolarité de 16 ans existe depuis 59. Mais lui encore, il fait comme Fallou, comme les précédents, il reproduit une homogénéisation du contenu des disciplines. Et ça, ce n'est pas rien. On est du côté des normalisations. Alors, ce modèle civique reste à mes yeux le moteur essentiel de toutes les politiques publiques. Et par exemple, la loi Debré, qu'on a tant décrié à cause du mode de financement de l'enseignement privé, est fondée et renforce l'idée que l'éducation est un service public. C'est par une délégation de service public que les écoles privées peuvent être financées. Bon, bien, alors, je passe là-dessus. Modèle démocratique, modèle domestique maintenant. Alors, le modèle domestique, il n'est jamais central dans les politiques publiques, on laisse ça aux pédagogues. Mais on en trouve des traces. Et lesquelles, par exemple? Par exemple, j'en ai trouvé un superbe chez Jules Ferry. Et le voici, il s'agit d'une circulaire adressée aux instituteurs qui date du 17 novembre 1883. Vous êtes l'auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille. Et toc. Parlez donc au vôtre. Parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre, avec force et autorité, toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la morale commune, avec la plus grande réserve dès que vous risquerez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge. Bon, ça me paraît d'ailleurs significatif, mais il n'y a pas que lui. Abi. Abi est le premier ministre à introduire dans un texte l'idée de la communauté éducative. Et cette histoire de communauté éducative relève du modèle domestique dont parle Jean-Louis de Rouet. Alors, évidemment, ce modèle domestique, il est surtout situé par divers mouvements pédagogiques qui visent l'épanouissement de l'enfant et sa formation dans la liberté, que ce soit l'éducation nouvelle, Freinet, Sommerhill, Montessori, etc. Je voudrais quand même remarquer que Freinet, tout comme la pédagogie institutionnelle héritée de 68, combine démocratie, c'est-à-dire civisme et liberté de l'enfant. Par exemple, je relève chez Freinet, dans un livre qui est assez fondamental pour lui, qui s'appelle « Les invariants pédagogiques ». Alors, l'invariant numéro 27, c'est celui-ci. On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire à l'école ne saurait être formateur de citoyens démocrates. Voilà, là encore, les choses ne sont pas simples. Mais je reste sur l'idée que la logique civique et fondatrice des politiques publiques. Alors, le modèle industriel ou la logique industrielle, je vais suivre les trois marqueurs de l'anthologie en prenant quelques points de repère. Alors, certes, les politiques publiques ont contribué longtemps avant l'irruption des nouvelles technologies à un formatage et à une normalisation garantie par les évaluations, qui ne sont pas toutes bienveillantes, on le sait. Cette technologisation, je ne parle pas des technologies, parce que des technologies, il y en a avant. Hein, par exemple, il y en a une qui est tout à fait caractéristique, c'est la montée de l'audiovisuel. Fortement soutenu par une formation d'ailleurs de très grande qualité faite à l'ENS de Saint-Cloud, l'audiovisuel, fortement idéologisé, là aussi, il y a tout un, dans la presse 68 autour de l'audiovisuel, il y a quand même un ensemble de choses que nous connaissons tous. Mais, je ne sais pas, dans l'université où j'arrive en 71, au retour d'un séjour un peu loin en Algérie, je découvre une université en construction dans laquelle on s'honore d'avoir un circuit fermé de télévision dont personne ne s'est jamais servi parce qu'il avait été conçu en noir et blanc et qu'en 71, on était déjà passé à la couleur, personne n'en voulait, etc. Bon, bref, mais on avait un circuit fermé de télévision joyau de l'équipement de cette université. Bref, cette technologisation est peu présente en tant que telle avant les années 80, même si les techniques sont présentes dans les pratiques. En revanche, c'est évidemment le plan informatique pour tous qui en est le point de départ, parce que lui, il est armé idéologiquement. Mais il répond à deux objectifs. Le premier objectif, c'est de répondre aux besoins de l'industrie française, quand même. Avant de répondre aux 11 millions d'élèves qu'on veut introduire à l'outil. Alors, ce qui permet de voir ça, c'est le débat qui a eu lieu à l'intérieur de la commission qui l'a préparé. Parce que dans cette commission, dont je rappelle qu'elle était pilotée par Trigano, le club méditerranéen à l'œuvre dans la réforme de l'enseignement de l'éducation nationale, c'est grandiose. Il y avait un opposant dont on retrouve des traces sans aucun problème. Cet opposant, c'est JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et pourquoi JJSS était-il opposant? Parce que lui soutenait mordicus Apple. Et il se faisait fort, mais ce que Apple, on a un certain nombre de textes qui l'expliquent très clairement, que Apple proposait de mettre son siège social en France et pas en Irlande, ce qui lui aurait sans doute valu quelques difficultés fiscales que la firme n'a pas connues. Mais aussi, la position d'Apple, c'était de dire il faut jouer sur les progiciels et absolument pas sur la programmation. Nous, on vous fournit les progiciels et vous allez voir ce que ça donne. Bon, ce n'est pas ce qu'on a choisi, parce qu'il y avait un consortium d'industriels qu'il fallait soutenir. Et avec un certain nombre de choses qui allaient être rapidement détrônées, par exemple le crayon optique détrôné par la souris, et ainsi de suite, je passe. Et il est de bon ton de dire que le plan informatique pour tous a raté, bien qu'il ait coûté 1,5 milliard de francs de l'époque et qu'on ait équipé les établissements de 120 000 machines qui sont pour beaucoup restées dans des placards. Alors, deuxième point, je vais vite, la rationalisation. Alors, c'est évidemment de très très loin le plus important facteur le facteur de l'industrialisation pour le pouvoir public, sous une forme qui est abondamment décrite dans l'anthologie, qui est celle de la bureaucratie. Et rationalisation, c'est un autre nom de modernisation. Et depuis le 18e, on le sait. Et la bureaucratisation en est sa forme spectaculaire, quoique pas la seule. Par exemple, la normalisation des programmes, l'industrie. Et une chose toute bête, l'industrialisation des, l'harmonisation des programmes, ça veut dire l'industrialisation des manuels. Point. N'importe lequel d'entre nous qui a collaboré à des manuels, et je pense qu'on a un certain nombre ici à l'avoir fait un jour ou l'autre, sait très bien ce qu'il en est de la fabrication d'un manuel. La division du travail, les machins, bon, relise de Adorno, c'en est une illustration absolument spectaculaire. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que l'évaluation répond à cette harmonisation et à cette rationalisation. mais ça commence par celle des enseignants avec les concours. C'est-à-dire que cette autorité rationnelle légale, dont le concours, selon Weber, hein, dont les concours devant lesquels, enfin, que nous avons passés sont une illustration superbe, montre à quel point nous sommes dans ce modèle rationnel. Alors je m'en tiendrai là-dessus à mon expérience personnelle sur quelques points. Le premier point, c'est parce que mon premier point, c'est l'expérience des premiers plans quadriennaux, parce que leur objectif, c'était de réorganiser l'ensemble de l'activité de recherche en France. Et donc, ça supposait un petit travail d'analyse, ça supposait un certain nombre de choses, mais grosso modo, l'ambition, c'était bien cette rationalisation, alors avec un certain nombre de choses qui avaient été expérimentées auparavant, notamment au ministère de la Recherche, mais ce qui était tout à fait significatif, c'est l'harmonisation des procédures de reconnaissance, le financement, etc. Et on avait la même chose pour les études de troisième cycle simultanément, quoiqu'elles dépendent l'une de ce qu'on appelait les groupes d'études techniques, l'autre des groupes d'experts. Et c'est fascinant, l'administration. Il se trouve que j'ai participé aux deux. La seule différence sensible, parce que c'était les mêmes individus qu'on trouvait l'un à l'autre à un poil près, c'est que lorsque je faisais partie de l'un de ces deux groupes, je voyageais en seconde, dans l'autre, je voyageais en première. Et ça, c'est une des subtilités classiques de l'administration. Mais il reste que l'idée de faire cette harmonisation, de produire cette rationalisation, était à mes yeux un énorme progrès, énorme, qui a permis le financement par exemple des déplacements des doctorants, etc. Il y a eu énormément de choses qui ont bougé à ce moment-là. Mais sauf que, comme d'habitude, chaque fois que l'on fait une opération de cet ordre, elle produit ce phénomène que j'aimerais qualifié d'auto-allumage, c'est-à-dire qu'on instaure quelque chose dont on s'aperçoit que c'est pas mal quand même, que ça améliore la situation. Je ne vois pas qui d'entre nous pourrait dire que les plans quadriennaux ont détérioré la situation. En revanche, le premier projet de contrat, enfin le premier texte que j'ai rédigé en 91 pour mon équipe faisait 26 pages. Le dernier que j'ai rédigé en 2006 faisait 256 pages. Et dans cet écart, je lis cette espèce de croissance quasiment automatique qui affecte à peu près tous les processus de normalisation, d'évaluation, etc., que l'on connaît. La bureaucratie a une fâcheuse tendance à se nourrir d'elle-même. Par exemple, l'incroyable croissance des statistiques que nous produisons depuis une vingtaine d'années, mais aussi le fait que, comme il faut avoir des indicateurs mesurables. Bon, évidemment, l'indicateur mesurable, ce sont nos publications. Mais du coup, ça produit une inflation qui est absolument hallucinante, avec un système artificiel de publication qui répond moins aux soucis de diffuser la recherche que de satisfaire aux exigences d'une nomination ou d'une promotion. Et évidemment, la concurrence qui s'ensuit, qui est d'ailleurs très clairement défendue dans l'agenda de Lisbonne. Bon, il se trouve que j'ai été à peu près à la même époque membre d'une commission du Comité national d'évaluation, où il y avait un gros travail d'analyse. Par exemple, j'y ai fait un bilan des thèses des 10 années précédentes, de cet ordre, qui nous apportait du nouveau, qui permettait de savoir où nous en sommes dans nos propres recherches là-dessus. Mais là encore, avec des effets pervers. Par exemple, j'ai siégé au jury d'attribution des primes d'enseignement doctoral et de recherche, qui n'étaient pas des primes d'excellence, mais bon, c'était ça, l'ancêtre. Alors, ce qui était très caractéristique, c'est que nous sommes moins nombreux. C'est plus difficile les HS que les sciences dures. Donc il y avait des critères. Et pour chaque individu, parce que le plus rapide, c'est de mettre des notes. Et ensuite, on fait une addition, c'est pas compliqué, et on voit qui a le plus de points. Mais alors, sauf que les critères d'évaluation ne nous convenait guère, à nous les évaluateurs. Voir par exemple qu'un volume en sciences humaines vaut considérablement moins qu'une publication est quelque chose qui nous gênait quand même. Et puis il y a un certain nombre de critères à côté, parce que, bon, après tout, est-ce qu'avoir la Légion d'honneur est forcément un critère de recherche, alors que ça permet d'attribuer des points supplémentaires? Il y a des choses de cet ordre qui me semblaient quand même discutables. Et, je passe. Autre chose aussi, j'ai été amené dans les années 90 à devoir travailler sur la politique des personnels de mon université. Bon, le principe est assez simple. L'éducation nationale sait à peu près convenablement administrer ses personnels. À peu près. Mais elle ne sait absolument pas, ou elle ne savait absolument pas, gérer les emplois. Et le problème, c'est de passer d'une administration des personnels à une gestion des emplois. Et là, on fait des découvertes. Alors, il y a eu un énorme travail qui a été fait pendant ces années-là. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec M. Soulas, qui était à l'époque secrétaire général de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, qui est devenu le patron de l'agence de modernisation. J'ai travaillé aussi avec Sidan sur les fonctions, sur la définition des fonctions, etc. Et nous sommes arrivés, dans le rapport Sidan, il y avait 13 fonctions, le ministère en a retenu 8. Mais ça permettait, ces 8 fonctions, vous connaissez, hein, vie de l'étudiant, gestion financière et comptable, etc., les bâtiments, la logistique, les machins, etc., ça permettait de fixer des critères. Mais dès qu'on fixe des critères de cet ordre pour la dotation en personnel, on crée des choses qui ne collent pas. Exemple typique. Pour la fonction gestion financière et comptable, le calcul se fait, vous avez droit à un emploi dans une université pour telle tranche de mandat. À l'époque, 5 millions de francs. Bon, un emploi. Très bien. Sauf que, quand je compare le budget d'une université scientifique ou médicale, qui a des équipements qui coûtent une fortune, et une université qui n'est que de sciences humaines, je pense à Grenoble 3 ou à la mienne, à Lyon 2 à l'époque, on est dans une situation qui n'a aucun rapport. Moyennant quoi, on doit recruter des agents contractuels pour pouvoir assurer le boulot. Bien, on recrute des agents contractuels et là je suis dans la fonction ressources humaines. Dans la fonction ressources humaines, j'ai droit à un agent pour tant d'emplois. Ah oui, mais pas les contractuels. Et donc on est obligé de recruter des contractuels, mais on n'a pas d'emploi pour gérer ces contractuels-là. Donc on est obligé d'embaucher d'autres contractuels pour les gérer. Et je me suis retrouvé comme ça avec un certain nombre de choses. Bon, par exemple, j'avais, c'est pas compliqué, 579 vacataires permanents pour lesquels il fallait trouver une solution dans le personnel administratif, qu'en général les enseignants du supérieur connaissent mal et qui n'étaient absolument pas pris en compte dans le calcul de la dotation, etc. Et puis on voit des tas d'autres choses aussi, parce que la croissance des années 80 et 90 a amené à devoir recruter des tas de gens, parfois pour des fonctions nouvelles, comme l'orientation par exemple, qui apparaissait. Personne, il n'y avait rien avant, pour des choses comme ça. Donc on va recruter. Et on recrute comment ? Ce sont des contractuels. Ce sont des gens qui, en général, sont diplômés. Et on a tendance, inévitablement, à les recruter en fonction, les mettre sur un grade en fonction de leur discipline et pas en fonction de leur fonction. Bon. Alors ça flanque déjà une sacrée pagaille. Le décalage fonction-grade est une source d'ennui permanent. Mais il y en a d'autres. Parce qu'en 84, on avait intégré un nombre colossal d'agents de type CNRS, on disait à l'époque, dans un corps qui allait devenir celui des ITARF. Or, ce corps, qui est théoriquement lié à la formation et à la recherche, il faut que j'accélère, hein, était, la plupart de ces gens-là avaient des fonctions administratives. Seulement, pas de chance, ils ont, eux, droit à une prime de participation à la recherche, qui n'est pas du tout du même type que les primes des personnels de l'administration scolaire et universitaire, d'où des tensions internes qu'il faut bien régler. Et donc, c'est comme ça que je suis parvenu à faire le premier bilan social de mon université. Ça dure aussi bien les problèmes d'âge, de machin, d'ancienneté, tout un cirque, qui est encore issu de statistiques, mais qui permet d'y voir un peu clair. Or, ça appartenait évidemment à cette logique de gestion et d'industrialisation de la fonction. Et le je m'arrête là-dessus. Non, simplement, j'avais envie de plaisanter un peu parce que j'ai dû mettre de l'ordre dans les distributions des primes de mon université. Et alors, j'ai fait des découvertes. Il y en a une que j'ai découvert avec une grande satisfaction. C'était une prime instaurée en 1971 pour les dactylocodeurs. Alors évidemment, il n'y a plus de dactylocodeurs dans nos universités, mais la prime existe, toujours. Ce qui fait que, parmi les 10 plus importantes primes du personnel de l'université dont je parle, qui gérait 1150 personnels, sur les 10 premières, il y en avait 8 qui appartenaient au même département informatique. Ce qui veut dire aussi que dans cette industrialisation, on a une autonomie de certaines catégories de personnel qui ont une tendance, j'allais dire naturelle, à fonctionner comme un État dans l'État. Bon, deux mots sur l'idéologisation, je m'arrête. Alors, premier point, il se trouve que j'ai été amené à participer à l'élaboration de la loi de 84 d'Alain Savary en étant un des deux rédacteurs de la synthèse des contributions qui avaient été faites dans le cadre des missions nouvelles pour l'université en 82. Et voici la façon dont Savary répondait, dont Alain Savary répondait à la présentation publique que je faisais de ses résultats. C'était le 5 mars 82. Chaque fois que les pouvoirs publics français depuis l'ancienne monarchie ont dû faire face à une innovation ou à un besoin éducatif neuf, ils y ont répondu par la création d'institutions périphériques au système universitaire et dérogatoires par rapport à lui. De la création du Collège de France sous François Ier à celle des IUT, nous avons vu se poursuivre ce mouvement dont résulte l'extraordinaire diversité des institutions qui constituent notre enseignement supérieur. C'est la réconciliation de cet ensemble dans le respect des différences et des spécificités que vise la nouvelle loi d'orientation, etc. Paf ! Ça, c'est un marqueur idéologique majeur. Autre marqueur idéologique significatif, chaque université doit organiser librement sa gestion en fonction des caractères et des objectifs spécifiques qu'elle a définis comme sien. Ça, c'est le coup des projets d'établissement dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, à travers les délibérations de ses conseils et l'action de son président. Le principe d'autonomie, c'est pas la LRU, hein, c'est Savary. Ça, c'est en 1982 qui disait ça. Et elle est inscrite, au moins très largement présupposée, dans la loi de 84. Conduite à l'idée et à la mise en œuvre d'une politique contractuelle entre le ministère de l'Éducation nationale, etc., ce qui ne va commencer que quelques années plus tard. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'était que dans la mesure où j'étais un des deux rapporteurs, c'est pas moi qui avais fait les contributions, il y en avait 300-400, je ne faisais que la synthèse. Mais il y avait un point sur lequel nous avions terminé, mon co-rédacteur et moi, qui était la revendication des universitaires d'une ouverture. Et les dernières pages de notre rapport, qui a été publié sous le titre « Mission nouvelle pour les universités », étaient consacrées aux boutiques de sciences. Et la réponse de Savary, alors en in petto, puisque nous étions à la même table, laisser, ce n'est pas le problème. Tout simplement parce que cette politique d'ouverture, qui était un élément, alors pour le coup, d'idéologisation très forte de la part des universitaires de l'époque, ne collait pas du tout avec les deux mesures essentielles idéologiques qu'allait proposer le ministre, à savoir la modernité dans l'harmonisation et l'intégration, et évidemment une nouvelle forme d'autonomie et d'évaluation. Alors, deuxième élément, la loi LRU. Alors, je vais très vite parce qu'il y a un livret publié par le ministère en 2011 qui est une merveille de ce que Pierre Meuglin résume en matière d'idéologisation sur le mode du ben, « faut que ça convienne à tout le monde ». Et c'est prodigieux. Alors vous trouverez ça, d'abord le premier élément caractéristique de ce changement, ça s'appelle « les bénéfices de l'autonomie des universités ». Bon, pas difficile d'être plus clair. Au départ, c'est l'autonomie, un accélérateur des changements des universités. Là, on est en plein dans la modernité comme élément majeur d'idéologisation. Le deuxième, c'est la liberté et la responsabilité, d'où l'évaluation. C'est page 2 du livret. Ensuite, c'est le « Tout le monde y gagne » que vous trouverez page 7 du livret. J'y vois absolument rien avec cet éclairage. Ça me dispense de vous le lire. Et puis, il y a encore, évidemment, l'autonomie. Ça se trouve page 14 et la performance, page 15 de ce livret, avec des critères qui sont l'attractivité, l'innovation, l'offre, l'orientation, la réussite. Et évidemment, on achève par la concurrence internationale. La concurrence internationale, vous l'aurez deviné, c'est le principe de l'agenda de Lisbonne, qui est le dernier point de mon idéologisation. Alors, je m'arrête là, hein, parce que j'ai dépassé le temps. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que j'ai été content que plusieurs d'entre vous y interviennent, c'est que Jean-Louis de Rouet donne aussi comme logique la logique marchande. Et moi, si j'ai une frustration à la lecture de l'anthologie, c'est que je la trouve insuffisamment explicite sur cette question-là. Tout simplement parce que la question que posait Bernard Miège ce matin sur les modes de financement rejoint tout à fait ce point. Il me semble qu'il reste à analyser plus finement. Excusez-moi d'avoir été très long.
Merci Jean-François, on ne voulait vraiment pas t'arrêter parce que ces lectures de passages sont vraiment toujours fort intéressantes. Juste de... Avant de passer la parole à notre intervenant, intervenant, Jacques Carnéis, juste deux points. Je pense que de ton intervention, on peut retenir déjà une première grande idée. Quand on parle de politique publique et d'analyse des politiques publiques, il y a bien deux types quand même, au moins deux types. Il y en a plus de deux, mais il y a au moins deux types de secteurs qu'on n'analyse pas de la même façon. C'est d'une part, et c'est là sur ce point qu'a porté ton intervention, tout ce qui ressort de l'enseignement supérieur. Il y a vraiment les évolutions de l'enseignement supérieur en France, d'ailleurs, comme à l'étranger. Hein, il y a un courant international. Les évolutions de l'enseignement supérieur ces 40 dernières années sont énormes. énorme, et elle touche les structures elles-mêmes. Hein ? Ça, c'est ce que tu as dit, et je pense que c'est à retenir, parce que quand on regarde du côté du scolaire, les changements sont beaucoup plus longs, et c'est là ce que tu appelais le modèle civique. Je ne suis pas certaine que ce que tu appelles le modèle civique, justement, s'applique à l'enseignement supérieur en France comme à l'étranger. Je crois qu'il faut reprendre ces questions-là. Et puis, dans tes exemples, tu n'as pas fait référence. Alors, tu as parlé de technologisation, mais sous l'angle des normes, en fait, hein, des normes et des normes bureaucratiques. Et c'est vrai que notamment dans la table ronde précédente, la technologie, souvent, et dans les travaux du CIF, c'était souvent ça renvoyait aux technologies intégrées à la pédagogie. Souvent, on a plus étudié ça que les normes bureaucratiques, même si elles étaient non oubliées, mais moins étudiées. Et je pense que là, et je vais passer tout de suite la parole d'abord à Eric et à Jacques, je pense que sur ce sujet-là, il faut qu'on ait en tête trois éléments quand tu as parlé d'évaluation. On n'évalue pas, on n'a jamais évalué depuis les années 80 les plans liés au numérique. Et alors là, c'est quelque chose de commun au scolaire et au supérieur. On n'a évalué aucun plan lié à l'introduction des technologies dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement scolaire. Aucun. Vous pouvez les chercher, ces évaluations, elles n'existent pas. On a des tout petits bouts, hein, qui sont des avis d'experts, dans le meilleur des cas, mais jamais d'évaluation. Donc, quand on s'intéresse aux politiques publiques, vous savez que toute analyse des politiques publiques a des critères, c'est l'évaluation des actions qui ont été lancées. Donc, on ne peut pas ne pas se poser cette question, pourquoi les politiques qui dépensent depuis, alors là, c'est récent, hein, mais enfin depuis les années 80, tu as donné des chiffres, hein, sur IPT, pourquoi les politiques publiques qui dépensent de plus en plus d'argent sur le numérique n'évaluent pas ces politiques. Pourquoi ? Je crois que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Bon, moi j'ai un petit peu travaillé sur des hypothèses de réponse, mais je crois qu'il faut se le demander. Et puis, deuxième chose, Tu en as un petit peu parlé. Quand tu as évoqué les questions de contractualisation, et là on est du côté universitaire, il y a une dimension des politiques publiques qui est tout à fait essentielle, qui touche aujourd'hui le scolaire par les grandes enquêtes comme PISA. Qu'est-ce qui se passe avec l'internationalisation? Et c'est là où cette espèce de pression internationale sur les modèles peut être étudiée, en tout cas, avec le triptyque qui est celui qui a été étudié dans le cadre du CIF, en faisant jouer les différents critères. Voilà.
Merci. Dans le souci de garder peut-être au moins un petit moment pour des échanges avec l'assistance, je fais une présentation très rapide donc de Jacques Carnis, à qui je demanderai aussi de se tenir dans un format d'une dizaine de minutes si c'est possible. Et je souhaite que ce soit possible, nous le souhaitons tous. Jacques est enseignant et chercheur à l'ESPE de Bretagne occidentale. Il est membre du CREAD, qui est le centre de recherche sur l'éducation, donc les apprentissages et la didactique. Ses travaux portent sur les pratiques numériques, donc les pratiques des apprenants, et plus généralement sur toutes les questions didactiques qui sont liées au numérique.
Bonsoir. Je vais effectivement compléter un petit peu ma présentation pour faire le lien avec ce que je vais vous dire ce soir, donc relativement rapidement. Donc, politique publique au service de l'industrialisation, c'était le questionnement de cette table ronde. Donc, je vais me centrer sur « au service de ». Et puis, pour compléter la présentation, concernant cette anthologie, ce monument, je me suis centré plutôt sur sa réception, voire son appropriation par des personnes extérieures, puisque j'en suis un petit peu un, et pourquoi pas par des étudiants, en prévoyant, je l'ai un peu testé d'ailleurs, comme un sujet de CAPES pour les documentalistes, ils n'ont pas aimé. voilà. Alors, donc, deux points de vue. C'est un sujet blanc, voire même un cadeau de Noël, en 5 minutes. Donc, j'ai deux approches, en quelque sorte. Une qui est de l'ordre de l'action conjointe. C'est un mouvement international qui regroupe par exemple la philosophie de l'esprit une approche particulière qui est la théorie de l'action conjointe en didactique, donc action conjointe qui s'appuie sur les travaux de Dewey et de Wittgenstein par exemple, avec le lien entre jeu de langage et forme de vie, et puis cette notion d'expérience. L'expérience, c'est le pont qui relie avec l'autre dimension, les espaces de communication de Roger Audin en SIC, qui distingue le texte écrit par beaucoup d'entre vous, et puis le texte que lisent moi et puis d'autres éventuellement qui découvrent plus ou moins ce sujet-là. Donc pour ce faire, je me suis appuyé sur un logiciel qui s'appelle Trop, que beaucoup d'entre vous connaissent, et j'aurais aimé vous montrer quelques graphiques, mais ce n'est pas possible. Donc, occurrence, ce terme-là a été utilisé 3 fois dans le livre, et je me suis dit, peut-être que les auteurs ont cherché de façon industrielle ou de façon technologique dans l'ouvrage, dans les textes, pardon, choisi des traces, des marqueurs, puisqu'on était dans un langage qui me disait. Donc j'ai cherché longtemps, vainement, la trace d'une utilisation de ce type-là. Et donc, ça c'est un premier point. Et donc, le contact, alors du côté de la réception, pour mon compte, eh bien, ça me permet de dire un mot qui n'a pas été utilisé aujourd'hui, c'est celui d'OME, outils et médias éducatifs qu'on trouve chez Pierre Meuglin en 2005 et qui me semble être cependant une brique ou un ingrédient de l'industrialisation, peut-être qu'il ne serait pas tout à fait à mettre de côté, puisque je participe aussi à un projet ANR qui s'appelle REVEA, les ressources vivantes, et donc l'idéologie et les imaginaires qui circulent autour des ressources dans les établissements me semblent intéressants à prendre en compte. Voilà. Donc, muni de cet outil, j'ai exploré l'ouvrage puisque j'ai eu la chance d'en avoir une version numérique. Assez naturellement, je me suis centré sur le terme « service ». Et j'ai essayé de voir ce qu'il nous ramenait de la réalité. Mon interrogation, un peu épistémologique sur l'ouvrage, c'est le lien, pour moi nécessaire, entre jeu de langage, les discours et les formes de vie, non pas la réalité, mais l'action et l'expérience, pour le dire autrement, l'expérience de lecture, l'expérience de communication. Et donc la nécessité peut-être d'avoir des exemples qui... Alors, le livre est déjà suffisamment important, et je parle là plutôt d'un futur ou d'un complément ou de choses qui permettraient une lecture plus facile du livre. Parce que sinon, on se crée nos propres, ou on fait appel à nos propres exemples, et avec le risque de se tromper éventuellement. Donc, le texte, effectivement, mais il peut y avoir des livres sur des réalités qui n'existent pas. Là, j'avais encore des images de naufrageurs. Il y a des livres très sérieux sur les naufrageurs, les gens qui allumaient des feux sur le bord de la côte pour attirer les bateaux. Et, bon, des gens qui récupéraient les choses qui sortaient des naufrages, il y en avait, des gens qui l'organisaient sciemment, il y en a eu beaucoup moins. Donc il peut y avoir des textes sur des réalités qui n'existent pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'industrialisation, j'en suis le témoin. J'ai travaillé 10 ans dans le premier degré, 10 ans dans le second degré et 10 ans dans l'enseignement supérieur. Et donc... Je crois que il n'y a pas besoin qu'on me prouve que l'industrialisation existe bel et bien. Ce qui me semble plus difficile, c'est de dépasser ce qui est pointé assez souvent dans l'ouvrage. C'est « Ah oui, mais ça c'est américain. Ah oui, mais ça c'est pas beau. Ah oui, mais ça on n'en veut pas. » Et donc on préfère regarder ailleurs et discréditer ce discours... descriptif et ce discours qui prend en compte une réalité qu'on peut difficilement mettre en cause cependant. Donc ce travail sur le mot service m'a permis de repérer grâce à un découpage du livre, découpage en partie qui ont été évoqués, je ne les reprécise pas. Et puis, découpage aussi en chapitres, puisque c'est tout à fait possible, grâce à un petit bricolage auquel je me suis appuyé, auquel je me suis coltiné. Voilà, donc il se trouve que dans le premier chapitre, le visuel c'est quand même sympa, le service, le premier chapitre, fleuve on peut dire, 80 pages, service, il est assez éloigné de tout, il n'est pas très présent, je vous donnerai quand même le diaporama puisqu'il est fait. Voilà, et quand on arrive dans la conclusion, plus brève et prospective, toujours de Pierre Meuglin, on arrive à une proximité entre service et production, et produit et consommateur qui interpelle. Grâce au logiciel, on a le lien pour aller vérifier en quoi c'est éventuellement heuristique. Alors, ne perdons pas de vue notre perspective de service. Et donc, j'ai essayé de voir, grâce à la fonction Rafale, où est-ce qu'on trouvait le plus la notion de service. Eh bien, ça m'a indiqué, ça m'a orienté rapidement vers les renouvellements. Et plus précisément, dans un article écrit par François, je ne savais pas, maintenant je me rends compte que c'est assez logique, mais voilà, donc ça m'a mené mécaniquement, je dirais, à ce chapitre 18. J'ai essayé de voir dans la perspective actant-acteur, en quelque sorte, est-ce que le service public, il est au service d'eux, il serait à la remorque au début de la phrase ou... voilà. Et donc, ça nous donne des représentations graphiques que vous découvrirez après aussi sur, effectivement, une position très, très située du secteur public liée à plusieurs choses différentes. Ensuite, je me suis attaché à la question de politique. Alors évidemment, le logiciel, il a un scénario, on peut le modifier si on veut, ça m'a semblé inutile dans un premier temps. Et donc, la question de la politique éducative, elle est répartie de façon assez équitable sur l'ensemble de l'ouvrage, sur l'ensemble du texte. Politique liée à assurance, mais à finalement très peu, avec beaucoup, enfin des fréquences très basses. Et les trois plus élevés étant politique, je vous parle là de co-occurrence, excusez-moi, politique entre politique et image de marque, politique et gestion, et politique et enseignement supérieur. Alors, j'ai donc lu avec attention, pas seulement avec trop, le chapitre 18, et donc je me suis retrouvé là face à une difficulté. Je vous livre mes expériences de lecture. Beaucoup de choses très intéressantes, et beaucoup de choses très intéressantes aux deux niveaux. Au niveau de l'extrait, Christine Musselin, donc sociologue des médias, qui livre en quelques pages une analyse assez intéressante, me semble-t-il, éclairante pour moi, en particulier au niveau de la formation à distance, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui non plus. Et donc, si on la lit, ou si tel que je la comprends, personne ne semble être au service d'eux, personne ne semble vouloir volontairement cette industrialisation, mais elle se produit de fait ou par la bande. Il y a une volonté de faire grandir, une volonté politique du coup, de faire grandir et de massifier l'université. Donc, cette industrialisation se produit à notre insu ou à l'insu de tout le monde finalement. C'est l'analyse que j'en retire moi, n'ayant lu que cet extrait. Françoise en tire d'autres choses, c'est-à-dire que... on va aller très vite. Moi aussi, j'avais prévu d'utiliser, de réutiliser les trois marqueurs, mais on va juste s'arrêter là-dessus. Françoise lit dans cet extrait, ou dit qu'elle lit dans ces extraits beaucoup plus que moi, surtout d'autres choses. Et en particulier, une seule, c'est que... François Thibault dit que Christine Musselin met en évidence de grandes différences d'industrialisation entre le second degré et le supérieur. La première étant plus ancienne et plus profonde, si j'ai bien compris. Donc je voulais juste dire rapidement que je n'ai pas lu ça dans l'extrait, et d'une, et que deux, ça ne va pas de concert avec mon expérience personnelle. Et on pourra en discuter Ensuite, si vous le voulez, après, il y a une question de temps, ça dépend quelle temporalité on prend, etc. etc. Et puis, juste s'interroger justement sur la possibilité de ces trois marqueurs. Ma question aussi au départ, je ne l'ai même pas lue, était la suivante. Est-ce que, mais elle a déjà été posée en quelque sorte, est-ce que les trois marqueurs, technologisation, rationalisation et idéologisation, peuvent être utilisés de la même manière dans le domaine particulier des politiques publiques? Et donc je voulais juste citer une phrase qui l'a été par un responsable d'une collectivité territoriale, une région en l'occurrence, la mienne. Je ne l'ai pas enregistrée, je ne la cite pas de première source, mais elle me semble pouvoir faire l'objet d'une analyse post-anthologie pour prendre en compte quelque chose qui n'a pas du tout été pris en compte, celle de la territorialisation, décentralisation, déconcentralisation et éventuellement reconcentralisation. Bientôt, monsieur le recteur, votre seule tâche concernant l'éducation consistera à poser votre griffe en bas des diplômes. Donc voilà un discours de responsable d'une région qui a une dizaine d'années environ, et des acteurs, pour ne pas dire les mêmes acteurs, en sont aujourd'hui assignés avec le rectorat, justement, les fameux PIA, et voire obtenir des fonds sur les projets d'investissement d'avenir. Voilà, donc l'expérience me semble nécessaire. La réalité, c'est compliqué, mais en tout cas, le lien entre jeu de langage, les discours et les formes de vie que les lecteurs ont ou font.
Jacques, juste avant de passer la parole pour conclure, en fait, ce seront des questions conclusives, on va dire. Juste deux choses en réaction à ce que vous avez dit. La première, c'est que Trop confirme ce que Pierre avait vu ce matin, c'est-à-dire que la question des politiques publiques, ce n'est pas un des axes directs du CIF, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'industrialisation de la formation sans être dans ce cadre aussi de pensée des politiques publiques. Ça ne veut pas dire qu'on utilise ces marqueurs pour analyser très directement les politiques publiques, mais qu'on peut tout de même, en faisant jouer, ce qui est différent, hein, en faisant jouer ces marqueurs, apprendre un certain nombre de choses, dire un certain nombre de choses des politiques publiques. Ça, je pense que Trop confirme quelque chose, et c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Après, pour le débat, on pourra évidemment continuer. Juste, Christine Musselin, en fait, c'est une sociologue, hein, qui travaille sur, qui a consacré toute sa carrière aux travaux sur l'université. Elle est au centre de sociologie des organisations, et l'organisation qu'elle regarde depuis 30 ans maintenant, c'est l'université. Hein, voilà. Donc, tu présentes.
Oui. Alors, nous passons à. Alors, juste un mot. Désolé de vous avoir privé. J'ai vu de la place où je suis les très belles diapositives, notamment des schémas d'analyse factorielle qui sont certainement très intéressants à analyser. C'était effectivement pas au programme aujourd'hui d'utiliser le numérique, donc on est allé assez vite. Je vais donner la parole à Aude Seurat, qui est ici avec le statut particulièrement périlleux en cette fin de journée de discutante, et qui que je présente aussi rapidement. Aude, vous compléterez, hein, cette présentation. En plus, c'est de l'Éric Auziol dans le texte et oralement, avec une lecture peut-être particulière de ce que vous faites, qui me paraît très intéressant. Maîtresse de conférence donc à l'Université Paris 13, chercheuse au LabSIC. Elle intervient dans un champ privilégié de référence que j'ai vu comme la lutte contre les discriminations sociales, mais pas uniquement, et les formes de communication particulières qui sont employées à ce sujet. Et notamment, j'aurais aimé en savoir plus parce que je n'ai pas pu aller plus loin, mais la notion de kit que vous avez développée, je crois, dans votre thèse. Et elle s'intéresse actuellement à aux dimensions, ce que j'ai appelé, vous reformulerez si ça vous convient pas, les dimensions prescriptives des pratiques pédagogiques, qui, à mon avis, est un terrain de recherche tout à fait intéressant. Donc voilà, je vous donne la parole pour essayer un travail de, à la fois un travail de synthèse et aussi un travail de discussion sur tout ce qui a été dit.
Effectivement, je vais essayer cet exercice un peu périlleux et en même temps avec la place de cette table ronde en fin de journée d'études et à la fois de part, comme vous le soulignez en introduction, la dimension transversale et vraiment en filigrane la question des politiques publiques et dans l'anthologie et également dans les débats qu'on a eus aujourd'hui, finalement, voilà, ça rend propice quand même des questions qui peuvent apparaître en quelque sorte, en partie, si on peut dire, comme des questions bilan, même si, bien sûr, je n'ai pas prétention à poser toutes les questions qui ont été très riches aujourd'hui. Donc j'essaie d'identifier, et par la lecture de l'ouvrage, et au fur et à mesure de la journée, et par les interventions de cette table ronde plus spécifiquement, des points de tension qui peuvent, on peut en discuter ensuite, à certains égards, devenir des injonctions paradoxales autour donc de cette articulation entre la question des politiques publiques et celle de l'industrialisation. Alors bien entendu, comme je vais essayer dans un temps court de mettre en avant des points de tension, ça sera forcément, comment dire, à gros traits, et bien sûr que des nuances sont bien sûr attendues. Donc ça serait en quatre temps. Le premier temps concerne cette dimension, bien sûr, cette articulation très forte entre politique publique et question d'idéologisation. Hein. Ça a été dit tout de suite par Jean-François Tétu. Et finalement, on peut se demander, puisque dans l'anthologie, ça se voit bien, dans les différentes interventions d'aujourd'hui, qu'on peut avoir différentes effectivement, formes d'idéologisation autour, donc ont été évoquées notamment les modèles civiques, domestiques, les questions de marché, etc. Et on a parlé aussi, au début, avec les débats que ça commence à susciter, des idéologisations liées aussi à des, on pourrait dire, des ancrages culturels. Hein, donc ont été débattus notamment le fait qu'il y avait ou pas des distinctions dans la manière d'idéologiser l'industrialisation de l'éducation dans les pays nord-américains et en Europe. Et on pourrait se demander si à l'époque actuelle, on n'a pas de plus en plus un mélange, une superposition des formes d'idéologisation qui peuvent porter à confusion. Alors je m'explique un petit peu. La question de l'idéologisation, finalement, nous amène à dire que les politiques publiques, finalement, se posent plus tellement forcément la question de industrialiser ou pas, mais on a fondamentalement, même si elle n'est pas toujours posée comme telle, la question de industrialiser pourquoi. Et de là, ça nous amène forcément à des réponses liées aux idéologisations pour démocratiser, pour massifier, pour rentabiliser, pour... voilà, on pourrait en citer énormément. Et alors c'est vraiment une question, est-ce qu'il n'y aurait pas dans certaines politiques publiques actuelles une sorte de volonté ou de manière de montrer qu'il y aurait dans les discours, hein, bien sûr, hein, j'entends bien, hein, donc dans cette idéologie présente qu'on peut trouver à travers les discours, une manière de dire qu'on peut combiner un certain nombre de finalités qui pourraient être très différentes avec les mêmes moyens, en quelque sorte, que seraient les moyens de l'industrialisation. Donc je donnerai un exemple, par exemple celui qui est traité par Sarah Labelle dans ses travaux sur la société de l'information, où on va, et donc de leur déclinaison en éducation bien sûr, on va à la fois leur donner des bénéfices en termes d'émancipation, donc là on verrait plutôt l'aspect domestique, des bénéfices en termes de démocratisation, l'aspect civique, des bénéfices en termes de coûts, de d'économie d'échelle, etc. Donc on verra plus ça. Et donc avec cette idée qu'on aurait de plus en plus cette possibilité d'arriver à répondre à tous ces objectifs combinés. Donc ma question est la suivante. Sans pour autant rentrer dans une confrontation absolue où on voudrait absolument opposer ces logiques, civique, domestique, marché, puis autre encore peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus être vigilant aux leurres de leur facile conciliation ? Et à cet embroglio, en quelque sorte, des idéologisations qu'on retrouve peut-être de plus en plus dans les politiques publiques actuelles, soit entre plusieurs politiques publiques menées conjointement, soit au sein même d'une politique publique. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question tient dans la tension, autre tension qui peut mener quasiment pareil à peut-être des injonctions paradoxales, entre cette tendance des politiques publiques à inciter à l'autonomisation, on en a parlé plusieurs fois. Alors, autonomisation des apprenants, on en a parlé à de nombreuses reprises aujourd'hui, mais aussi autonomisation des structures, et en même temps ce renforcement des formes de re-régulation. Donc, en quelque sorte, est-il réellement possible de concilier volonté de céder plus d'autonomie, tout en augmentant donc ce qu'on va appeler la rationalité gestionnaire. Je donne un exemple aussi rapidement pour illustrer. Est-ce que, par exemple, c'est ce qui était exactement un petit peu dans la réponse que le responsable des études de l'AFPA, Paul Salaman, dont parlait tout à l'heure. Donc, c'est dans la réforme de la formation professionnelle, le fait de dire on va décentraliser, donc on va autonomiser les structures, et en même temps que, paradoxalement, cette décentralisation s'accompagne de processus de contrôle, d'évaluation, etc. Et donc, c'est exactement un petit peu dans la question que vous posiez à la fin de votre présentation sur la question de la territorialisation et du rôle, du statut qu'on va attribuer aux différentes échelles, donc les politiques publiques bien sûr impliquent la question des échelles de pouvoir, et donc de cette tension entre incitation à l'autonomisation et renforcement des processus de contrôle. On pourrait donner comme autre exemple aussi la loi LRU dont a parlé Jean-François Tétu, et donc cette injonction à cette liberté qui serait forcément bénéfique aux universités, et en même temps, on voit bien la pression qui est mise actuellement aux universités de fusionner, et donc de perdre en quelque sorte en autonomie. Voilà, en identité. Donc deuxième tension, voire injonction paradoxale, à nous de voir ensuite si c'est le cas ou pas. Troisième tension, qu'on évoquera peut-être demain à propos du GIS et de la question de l'innovation, c'est celle de la tension entre la question de la régulation, qui est assez centrale dans les industries éducatives, et qui, Bernard Miège en parlait dans sa présentation, ce lien entre industrie éducative et de la formation et industrie culturelle, la question de la régulation est aussi très fortement présente, les industries culturelles sont fortement régulées, donc c'est le cas aussi dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Et en même temps, je parle un petit peu sous votre caution, mais il me semble que aussi, c'est un pont qu'on peut faire aussi avec les industries culturelles, qu'on est face à ces injonctions à l'innovation. Donc voilà, on a à la fois cette tension entre des politiques publiques qui incitent à l'innovation, qui est vraiment présentée comme une idéologie, avec toutes les confusions qu'on peut porter avec le terme d'innovation, qui est parfois vu comme une simple introduction de nouvelles technologies, et en même temps, donc cette régulation forte qui amène des normes, des procédures, de plus en plus de référentiels communs, normes, procédures, référentiels communs, qui vont peut-être à l'encontre des processus d'innovation, justement. Quand on évalue, en quelque sorte, l'évaluation peut mener à une forme de standardisation, et on peut considérer que ça n'est pas forcément très propice à l'innovation. Donc voilà, troisième point de tension entre régulation et innovation. Dernier point de tension, alors vous, Elisabeth Fischer, on a déjà parlé un petit peu dans son intervention, sa remarque tout à l'heure, c'est celle de cette relation entre les politiques publiques et peut-être leur lien avec l'histoire de chaque institution, de chaque pays, et de, bien sûr, comme l'a fait Jean-François Tétu, en montrant un peu ce fil rouge un peu de l'histoire française, et la question de l'internationalisation. On peut se demander s'il n'y a pas des tensions à l'heure et qui ne sont pas forcément dites comme telles, entre cette volonté de peut-être maintenir une spécificité culturelle, dirons-nous même une exception culturelle, et celle de se conformer, d'entrer dans la cour de l'internationalisation et de ses processus propres. Donc est-ce que les politiques publiques font avec ce double ancrage, donc ancrage national, ancrage international, ou sont-elles victimes d'un mouvement qui les dépasse?
Je pense que vous vouliez parler soit de Christine Muchelin, à qui je faisais référence, et pas Elisabeth Fischer.
Oui,
voilà.
Hein,
voilà. On va prendre une question, éventuellement deux. Évidemment, dans cette table ronde, c'est toujours frustrant parce que sur les politiques éducatives, il y a énormément de choses à dire qu'on ne peut pas dire en si peu de temps. Mais vous avez peut-être des questions justement pour qui nous permettraient de combler les manques vraiment criants.
Oui, non, mais moi, j'ai beaucoup aimé là, ce que Aude Sera vient de dire sur les injonctions paradoxales. Parce que je suis persuadé d'être pas le seul à m'être senti complètement coincé à un moment ou un autre de ma carrière, par des choses qui étaient de cet ordre-là, soyez conservateurs et conservez et innovez, etc. Enfin, on s'en sort pas.
Sur ce point-là aussi, effectivement, je vais encore revenir à mes jeux de langage et formes de vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien nécessaire, c'est une chose. Qu'il soit heureux et harmonieux, c'en est une autre. Et effectivement, les formes de vie des enseignants peuvent très bien être en opposition avec les discours qu'ils entendent, voire qu'ils relayent auprès des parents, etc. etc.
Oui, moi, c'est une remarque que votre dernier point suscite chez moi. Je pense qu'il y a, sur la question du rapport à l'internationalisation, à l'international, des différences importantes entre industrie culturelle d'un côté et industrie de la formation de l'autre. Enfin, je ne l'ai pas dit ce matin, mais je pense qu'il faut le dire, là. Même si, effectivement, pour la formation, pour les industries de la formation, dans la dernière période, il y a des tendances à l'internationalisation. Mais les industries culturelles, c'est autrement plus important et plus ancien, si je puis dire, que les industries de la formation.
Et moi, j'aurais une question qui m'est suscitée par l'intervention de Jean-François, mais qui est latérale par rapport à ton intervention, et qui renvoie peut-être à cette question des tensions dont nous parlait Aude tout à l'heure. Quel est le rôle du sujet par rapport aux politiques? Parce que, en fait, tu nous parles, mais non, ce dont tu nous as parlé, c'est finalement, c'est des politiques, des grandes politiques, des politiques ministérielles et au-delà. Et puis en même temps, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-François Tétu qui a joué un rôle dans tout ça. Comment ça se passe?
Là, je trouve que c'est pire qu'une injonction paradoxale. Non, je crois... Oui, pardon?
Ta conscience.
Oui, non, mais c'est...
Prenez le micro.
J'aurais envie de dire que répondre à cette question, ce serait dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce métier? Et c'est difficile d'y répondre d'un mot. C'est-à-dire que je pense... c'est très curieux parce que le point de départ, pour moi, je suis... Bon, tu le sais, Pierre, je suis au départ agrégé d'être classique. C'est-à-dire que pour moi, l'enseignement, c'est transmettre la culture. Mon premier poste dans un lycée de province en 68, c'était d'apprendre du français, du latin et des grecs à des enfants de bourgeois, bon, dont on espérait qu'ils soient bacheliers comme leurs parents, etc. C'est-à-dire que j'étais dans une perspective complètement... cette perspective culturelle de la formation qui est aux antipodes de, d'autres des formes initiales d'industrialisation. Et le problème, c'est que l'éducation, je crois qu'on ne peut pas être prof pendant 40 ans sans y tenir passionnément à la formation et au service public. Sans quoi on ferait autre chose. Parce qu'il y a d'autres fonctions qu'on peut assurer et pour lesquelles on peut avoir des capacités. Et le problème... ta question me fait penser tout de suite à des tas de choses. Il y en a une que je disais tout à l'heure pendant la pause à quelques collègues, qui est que la rationalisation, la technologisation, etc., suppose une certaine, un parcours rectiligne, homogène, etc. Tous ceux qui, comme moi, ont été profs, savent qu'un élève n'avance jamais comme ça. Autrement dit, ce que constate l'enseignant, c'est qu'il fait des bonds. Tantôt il stagne, tantôt il fait un saut. Pourquoi ? Ben c'est là qu'il est sujet de son propre apprentissage, et ou qu'il le découvre. Et je dirais que moi, j'ai dans ma carrière, à certains moments, j'ai eu envie que des choses bougent. Et il me semblait que le politique est un des lieux pour lesquels on a prise sur des changements et que ça vaut le coup. Et alors c'est sûr que c'est un... C'est-à-dire qu'en fait, la réponse que je peux donner relève soit du désir, soit de l'idéologie. Et c'est pas la même chose.
Pierre, pour prolonger un petit peu aussi la réponse de Jean-François, je pense que, ce qu'on n'a pas évoqué dans cette table ronde, c'est que les politiques publiques, c'est ce que tu veux nous dire. Tu as raison, les politiques publiques sont le fruit d'un certain nombre d'acteurs. Et regarder ces acteurs, c'est aussi comprendre, enfin se donner des éléments de compréhension des politiques publiques. Ce qu'on peut dire sur le sujet qui nous intéresse, et ce qu'on a un peu écrit dans l'anthologie, c'est que la proximité entre la recherche, les acteurs de la recherche et la fabrication des politiques éducatives était plus grande il y a quelques années qu'aujourd'hui, et notamment sur la question du numérique, où on a vu la disparition progressive de beaucoup de chercheurs dans la fabrication de ces politiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut regarder. Et c'est vrai que les chercheurs ont peut-être moins d'appétence aujourd'hui pour aller dans des lieux où on s'attache plus à normaliser qu'à produire, enfin, en ayant un cadre de valeur, qu'à produire un certain nombre d'orientations. Je crois que c'est aussi une autre façon de penser les politiques publiques.
Oui. Des arènes interstitielles.
Complètement.
On avait effectivement dans les années 50 des arènes interstitielles.
Jusque dans les années 90, voilà, quand on regarde par exemple les missions à la formation des personnels de l'éducation nationale qui s'appelaient les MAFPEN, qui ont agrégé dans les MAFPEN, vous aviez tous les mouvements éducatifs qui participaient et qui participaient, ces associations en fait, qui participaient à la fabrique de la politique publique. C'est vraiment intéressant de voir comment ça se fabrique aujourd'hui. Oui. Et vous aviez ça à tous les niveaux. Au moment de la pause, je discutais avec Alain qui est parti, Alain Déric, qui me disait, qui critiquait fort justement mon travail en me disant « Mais tu t'intéresses qu'aux politiques éducatives de l'État ?» Oui, moi j'ai fait ça. Et il me dit « Mais t'as pas regardé le régional ?» Je dis non, parce que c'est aussi... c'est énorme et on n'a pas assez de données et puis il n'y a pas assez de gens qui travaillent sur ces sujets, mais vous avez raison, c'est cet ensemble qu'il faut regarder.
Et on pourrait mettre les industriels aussi avec.
Complètement.
C'est-à-dire qu'on avait ces arènes où on avait à la fois industriels, hauts fonctionnaires et chercheurs, et les liens aux fonctionnaires-chercheurs étaient aussi proche. Et donc là, on restreint maintenant plutôt industriel.
Et aussi une autre catégorie dont Jean-François n'a pas parlé alors que je pensais qu'il en parlerait, c'est les syndicalistes.
Bien sûr. Qu'il faut, c'est cet ensemble, et c'est vrai que ces configurations, là on est en plein dans la configuration, ces configurations d'acteurs ont vraiment complètement changé. Hein. Le temps, les quelques années, enfin la dizaine d'années que j'ai passé au ministère, j'ai vu les chercheurs remplacés, en gros pour le dire vite, remplacés par des X-Men ou par des énarques, les postes qu'on occupait.
Françoise, il ne faut peut-être pas dire politique publique, à mon avis, il faut dire politique éducative en matière de technologie. Parce qu'il y a d'autres ministères, il y a d'autres lieux de l'État dans lesquels, par exemple sur le numérique aujourd'hui, il y a des discours, etc., qui ne sont pas les mêmes.
D'autant plus que chaque ministère a ses institutions éducatives, hein, le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, la formation professionnelle. On a à chaque fois des appareils éducatifs qui sont différents de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui sont des généralistes un petit peu en la matière. Et évidemment des politiques différentes qui sont menées. En général, si on prend, on l'entendait dans l'intervention du collègue de l'AFPA, il y a, du point de vue de l'industrialisation, les ministères qui sont liés à la production et liés soit dans l'agriculture. Ce qui est très curieux, c'est Jeunesse et Sport aussi, qui était très en avance à un moment donné sur le ministère de l'Éducation nationale. Savoir, le collègue ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le sigle AFPA, au départ, ne signifie pas formation professionnelle des adultes, mais formation professionnelle accélérée. C'était le A d'accélérer, et c'est tout un programme qui va définir des conditions tout à fait particulières de formation, qui s'inspire effectivement des notions d'urgence, enfin du critère énorme d'urgence et des délais qui sont ô combien importants dans le champ industriel en général. Je ne sais pas s'il faut, si on peut conclure. Je le ferai peut-être en remerciant tous les participants de cette table ronde, qui n'a de ronde que le nom. D'ailleurs, depuis le début, on est sur des tables qui sont symboliquement rondes. Pour effectivement le rapport qui personnellement m'a beaucoup intéressé. Je ne sais pas, je crois qu'il faut, avant de clore la journée, il faudrait peut-être donner au moins une annonce de ce qui se fera demain. Pierre, peut-être ?
Oui, alors, je m'associe à ce que vient de dire Eric. Je vous remercie et je remercie d'ailleurs l'ensemble de celles et ceux qui sont intervenus dans ces tables par ronde. Un très gros travail a été fait, j'en ai bien conscience. Vous avez toutes et toutes beaucoup travaillé. Nous-mêmes, nous avions beaucoup travaillé pour l'anthologie, mais les retours que vous nous faites, puissamment documentés, nous intéressent beaucoup et nous allons en tirer le plus grand profit. Donc, encore une fois, merci. Je remercie aussi beaucoup le personnel de la FMSH, Claire en l'occurrence, Bastien, je l'ai déjà remercié, mais je tiens à le redire, Françoise et l'administration générale de la FMSH qui nous a accueillis. Et puis alors je dois en effet annoncer la journée de demain. Certains d'entre vous y seront, d'autres nous rejoindront. C'est une journée un peu curieuse qui est consacrée en fait à la fondation d'un GIS, un groupement d'intérêts scientifiques, dans lequel le CIF figurera, mais à côté de beaucoup d'autres équipes, car il ne s'agira plus ou plus autant d'industrialisation. L'objet de la réunion de demain, c'est innovation, interdisciplinarité et formation. Alors, vous aurez peut-être remarqué que dans le GIS-2IF, dont il sera question demain, on retrouve quelque chose du CIF, mais c'est une pure homonymie. En fait, en réalité, il s'agira de bien d'autres choses. Il s'agira en particulier, principalement, des questions d'innovation, des questions d'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité a déjà été très présente ici. Quand je vois les différentes disciplines qui sont représentées, je m'émerveille de voir que cette question de l'industrialisation peut susciter un tel concours. Mais ça sera encore plus visible, sans doute, demain. Et puis, évidemment, des questions de formation qui nous intéressent. Donc, nous vous donnons, Françoise et moi, rendez-vous demain à 9h30 pour celles et ceux qui le pourront. Et nous vous remercions beaucoup et tous très chaleureusement d'être restés si tard aujourd'hui.
Merci à tous.